C'est merveilleux. C'est vraiment un plaisir, une joie pour Elisabeth et moi d'être de nouveau, j'oserais dire, chez nous, puisque nous étions là pour 9 ans, presque 10 ans parmi vous. Vous savez, il y a des saisons dans une vie, il y a des saisons dans une église. Et voilà, des fois, on oublie le rôle que diverses communautés de foi ont joué dans nos vies, comme dans vos vies. Donc, ça fait une année et demie que nous sommes à l'église 180 à Laval. Donc, lorsqu'on a entendu parler d'une implantation d'église, on s'est dit, bien, c'est pas loin de chez nous, on se presse à se joindre à l'équipe d'implantation d'église là-bas. Et évidemment, le travail à faire ici, je peux voir, n'a pas ralenti. Les besoins, les opportunités ici sont tout à fait incroyables. Je connais une église au Québec et qui n'arrête pas d'avoir des invités, de présenter des invités semaine après semaine, et c'est l'église L'Oasis. Vous avez une opportunité rare et une grande responsabilité devant ce que vous vivez en tant qu'église. Je suis convaincu que vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez, n'est-ce pas? Et ça veut dire que le travail sera très pointu, très important. Et ce travail ne peut pas attendre. Évidemment, c'est une joie pour moi, Marc et Cheryl dans leur responsabilité ici, à l'Oasis, en tant que doyen académique de l'ETEC, qui est l'École de théologie évangélique du Québec. Je n'oublierai pas ce jour, il y a presque 2 ans, où Marc m'a dit, je crois que le Seigneur m'appelle au pastorat à l'Oasis. Donc, Marc était une personne clé pour nous à l'école en tant que responsable de deuxième cycle. Tu cherches le clic? J'ai passé à ma chère épouse, Gaétan. Hein?
C'est Marc qui cherchait.
OK. Merci. J'ai donné Elisabeth. Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Parce que si je suis trop long, elle va aller à la fin qui dit fin. N'est-ce pas? Voilà. On me dit que Richard quitte tôt des fois, donc aujourd'hui, Richard, t'es tôt. Voilà. Non, honnêtement, c'est une joie pour nous de se retrouver ici parmi vous. C'est aussi une joie pour moi de faire un petit rapport de ce qui se passe à l'ETEC très rapidement. Venez me voir en arrière pour jaser, pour discuter. Mais cette église continue à jouer un rôle vraiment important. Marc, qui n'est plus notre responsable de deuxième cycle, il ne peut pas être pasteur à l'Oasis et responsable de deuxième cycle, continue à enseigner un cours quasiment à chaque session, ou 2 cours par année. Et Marc est un prof extraordinaire et il est un membre essentiel de notre équipe. Donc, merci, parce qu'à quelque part, vous lui permettez d'enseigner. Lorsqu'il enseigne à l'ETEC, il influence un grand nombre d'hommes et de femmes qui se sentent appelés à approfondir leurs connaissances, à mieux se préparer pour servir le Seigneur. Donc, quand vous voyez que Marc est parti, sachez qu'il risque de préparer peut-être le prochain pasteur de l'Oasis ou des apprentis qui viendront ici peut-être cheminer avec vous. Donc, plusieurs personnes de cette église ont joué et jouent un rôle encore important. C'est quasiment démesuré. Donc, évidemment, Justin Robert, le directeur du district, est maintenant aussi sur notre conseil d'administration. Claire a servi pour combien d'années? Je ne compte plus sur notre conseil d'administration. Merci, Claire. Francis aussi sur notre conseil d'administration. Marc a enseigné. Martin Bellerose est un de nos enseignants maintenant. Et ça continue, ça continue. Sonny, évidemment, et maintenant, il enseigne maintenant aussi pour nous. Et voilà. Et là, il faudra ajouter, bon, des étudiants, il y en a en masse. Dans le passé, il y a les filles Angers, il y a Louise qui vous fréquente encore, Marino. Il y a évidemment Suzanne et Jean-François qui ont fait une formation. Ça date maintenant déjà de quelques années, mais qui étaient un peu les précurseurs ici. Et ça continue. Philippe, qui est étudiant avec nous maintenant et qui nous rappelle qu'il est ouvert à ce que Dieu veut faire de sa vie. Et ton attitude pleine d'humilité et de disponibilité nous édifie beaucoup à l'ETEC. Donc, bon, voilà, il y a d'autres gens sans doute. Voilà. Donc, priez pour l'ETEC. C'est votre école. Oui, il y a d'autres écoles au Québec, mais celle-là, c'est votre école et nous partageons la responsabilité. Trois mots importants pour l'ETEC ces jours-ci ou ces années-ci. Partenariat. Donc, on a entendu tantôt des partenariats entre écoles, missions, etc. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu se bâtit par des partenariats. Et ça, c'est absolument au centre de ce que nous faisons à l'ETEC. Des partenariats avec d'autres familles d'Église, avec d'autres écoles, avec des missions. Nous sommes en partenariat dans la préparation d'hommes et de femmes à mieux servir le Seigneur. Deuxième élément, l'interculturalité. C'est phénoménal, comme on le voit ici à l'Oasis, on le voit dans la région de Montréal, évidemment, partout au Québec maintenant. L'importance de cette rencontre de peuples, de nations, de cultures qui nous vient d'un peu partout et souvent avec une passion pour le Seigneur. Je pense que dans certains pays, j'ai l'impression qu'on est chrétien ou qu'on se convertit comme à 6 mois ou 1 an. C'est quelque chose au Québec qu'on n'est pas habitué de voir, cette passion-là, cet amour pour le Seigneur que vous avez. Régina, je ne sais pas où elle est rendue, mais elle me dit tantôt, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais toi, Régina? Elle a dit, moi, j'aime le Seigneur. Bon, voilà, c'était sa réponse, j'aime Dieu. Et alors, cette passion-là que vous apportez au Québec, vraiment, donc l'interculturalité, pour nous, en tant qu'école, on doit se poser la question, comment bien faire la formation? Quand ce ne sont plus que des Savards ou des Corriveaux ou des Tanguay qui sont nos étudiants, mais des noms venant des quatre coins de la planète. Et comment ajuster la formation pour qu'elle soit pertinente dans ce contexte-là? Et un frère comme Martin Belle-Rose, évidemment, est tout à fait au centre de cette réflexion-là. Troisièmement, l'accompagnement individualisé. Pour nous, à l'ETEC, c'est prioritaire que chaque étudiant, on en a 70 cette année, soit accompagné personnellement, individuellement, qu'on leur offre le meilleur service, mais pas juste dans un sens professionnel, mais aussi dans un sens prophétique, dans un sens d'accompagnement, ce à quoi Dieu t'appelle. Donc, voilà pour quelques nouvelles. Je pense que je vais m'en tenir à cela, espérant que j'ai, oui, sans doute que j'ai oublié des gens dans cette église qui appuient. Merci Marc pour cette ouverture vers le soutien de l'école. Mais cette église a toujours eu des hommes et des femmes qui n'ont pas oublié la formation. Donc, dans l'Alliance chrétienne et missionnaire au Québec, avec 30 quelques églises, dont plusieurs églises qui ont plus qu'un couple pastoral, tous ces gens ont été formés théologiquement, bibliquement. Donc, les textes, ce n'est pas pour tout le monde, mais la porte est ouverte à tout le monde. On peut venir prendre un cours, on peut venir apprendre deux, on peut venir faire un certificat seulement, on peut venir faire un bac. On a maintenant la maîtrise. On a 17 sessions qui sont actives, encouragées. Et ces étudiants de maîtrise-là sont en train de faire des recherches pointues sur des éléments qui sont importants pour l'Église au Québec. Donc, réfléchir sur le Québec, une école comme l'ETEC est là pour nous aider à faire ça, pour mieux préparer l'Église. Voilà, donc merci pour vos prières. J'aimerais vous proposer ce matin une excursion dans un psaume. Il y a 150 psaumes et on ne pourra pas évidemment parler de psaumes, mais j'en ai choisi un pour nous ce matin. C'est le psaume 139. C'est un long psaume et nous allons d'abord le lire et soyez assurés que nous n'allons pas aborder tout ce psaume, mais effectivement, je vais surtout m'arrêter sur le premier et les deux derniers versets. Mais on va quand même regarder au psaume dans son ensemble dans les prochaines minutes. Voilà. Éternel, sonde et tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont faits. Avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi, merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers, là aussi ta main me dirigera, ton bras droit me tiendra. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière. Tout autour, voilà. Pour toi, même les ténèbres ne sont pas obscures et la nuit est comme le plein jour. Lumière ou ténèbres, pour toi, sont pareilles. Tu m'as fait ce que je suis. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles. Je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand, dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destiné, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers. Voici, je m'éveille, je suis encore avec toi. Puisses-tu, ô Dieu, faire mourir le méchant? Que les hommes sanguinaires partent loin de moi. Ils se servent de ton nom pour leurs desseins criminels. Eux, tes adversaires, l'utilisent pour tromper. Éternel, comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent? Eh bien, je leur voue une haine extrême. Ils les considèrent comme mes ennemis même. Sonde-moi, ô Dieu. Pénètre mon cœur. Examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours. C'est une lecture dans la version Le Sommaire. Vous êtes peut-être moins habitués, je pensais un peu nous rafraîchir avec une autre version ce matin. Les psaumes, ce sont des prières. Ce sont des hommes et des femmes qui crient vers Dieu, qui crient vers lui et qui restent attachés même lorsqu'ils n'entendent pas la réponse. Les psaumes, ce sont des prières honnêtes, authentique, qui concerne combien c'est difficile de demeurer fidèle lorsque nous ne voyons pas Dieu intervenir. Ce sont des prières honnêtes concernant mes craintes, ma cupidité, mon refus de pardonner l'autre. Ce sont des prières qui parlent de notre solitude, de notre détresse, de notre tristesse. Les psaumes, ce sont vraiment des prières courageuses. Ce sont des prières qui ne font pas que répéter des grandes et belles doctrines. On va voir dans le psaume 139 qu'il y en a des belles et grandes doctrines dans ce qu'on vient de lire. Mais ce ne sont pas d'abord des prières qui présentent des idées. Mais ce sont des prières de gens qui luttent avec des situations désespérées. Ce sont des prières personnelles qui ont demandé le courage de la part d'un David. Les psaumes, ce sont des prières laissées par des témoins, que ce soit David, des grands rois ou des tout petits bergers. Ce sont des témoignages d'hommes qui ont suivi Dieu honnêtement, qui ont laissé Dieu les sonder, mettre le miroir devant eux et de les transformer. Ce sont des prières de gens authentiques qui ont fait face à leurs faiblesses, à leurs manquements et qui ont décidé de parler avec Dieu à ce sujet-là. Les psaumes sont remplis d'émotions, de colère, de détresse, de désappointement, de jalousie, d'haine, comme le psaume de ce matin. Un des grands écrivains, pasteurs, théologiens de notre époque, Eugene Peterson, dit ceci dans les psaumes: ça ne se passe pas toujours bien. C'est souvent pas beau, les psaumes. Mais c'est honnête. Et cette honnêteté-là, on a difficulté des fois dans notre culture de l'intégrer dans notre vie et dans notre vie chrétienne en particulier. Donc les psaumes, ce sont des témoignages de gens qui ont connecté avec Dieu dans des moments difficiles, comme des moments que nous pouvons souvent, régulièrement vivre. Et ces témoignages-là ont tellement connecté avec le peuple d'Israël qui ont décidé de mettre ces témoignages, ces prières en chant. Et lorsqu'on se rassemblait, Israël chantait ces psaumes. Les psaumes, ce sont des témoignages souvent crus de ce que ça veut dire suivre Dieu. Et ce sont des témoignages, bien que c'est un David qui l'a écrit, tout le monde a dit: « Ah, oui, j'aurais pu écrire ça. Moi aussi, ma vie ressemble à ça. Moi aussi, je veux chanter ce psaume. » En réalité, en tant que ceux qui aujourd'hui se proposent de suivre Jésus, vous avez aussi vos psaumes, n'est-ce pas? Vous les écrivez peut-être sur un bout de serviette, un bout de papier, vous les cachez dans le fond de votre Bible à quelque part. Honnête dans notre marche avec Dieu, nous allons aussi avoir des psaumes que nous allons écrire. Et peut-être que Benoît ne mettra pas le psaume, ton psaume en musique. Peut-être, pourquoi pas. Mais les psaumes reflètent une marche authentique avec Dieu. Et ce sont des prières courageuses qui demandent des grandes convictions, beaucoup de foi, de persévérance et discipline, mais surtout le courage. Jérémie, qu'on s'arrête quelques minutes, on ne le fera pas, pour considérer à quel point, lorsque Jésus priait, lui aussi, c'était des prières courageuses. Il luttait avec des immenses défis dans sa vie, des incompréhensions, où il suppliait que Dieu puisse changer, lui enlever cette coupe, mais toujours il revenait en disant que ta volonté, soit faite. Notre psaume ce matin, le psaume 139, il est écrit par le roi David et, oui, nous rappelle beaucoup les prières, il me semble, de Jésus dans le Nouveau Testament. David aussi était constamment confronté par des menaces de persécution, des menaces de rejet. Il était, lui, tenté souvent d'haïr en retour. Et à quelque part dans son expérience, David, il a écrit le psaume 139. Le psaume 139. Je vous propose que tout ce psaume tourne autour du premier verset et des deux derniers. Voilà. Je me rattrape. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Et à la fin, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Tout ce qu'il y a entre ces trois versets découle ou pointe vers cette vérité: que Dieu est un Dieu qui nous sonde. Il nous sonde, il vient voir en profondeur. Et David, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie qui l'amène à dire, « Mais Dieu, je le sais maintenant, tu me sondes et tu me connais. » Tu me sondes et tu me connais. Et quelque part, à travers ce témoignage, surtout à la fin, il va dire, « N'arrête pas, ô Dieu, de me sonder. Si je te fais obstacle, pardonne-moi. Je veux que tu continues à me sonder. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Montre-moi. Continue dans ma vie ce que tu as commencé. » La première chose qui me frappe ici, je vous suggère, c'est qu'on pourrait croire le contraire, c'est-à-dire qu'à mesure que Dieu chercherait et sonderait David, que David aurait tendance à se détourner, à s'éloigner, que ce serait trop pour lui, qu'il se sentirait détruit, abaissé, accusé. Mais on voit dans l'exemple de David ici que non, il en veut plus. Il veut que Dieu le sonde encore plus. Il ne dit pas, mais arrête Dieu, j'en ai trop. On a cette fausse idée, ce mensonge qui nous habite, que si Dieu me sonde, ça sera l'enfer. Ça sera la destruction. Ça sera le découragement. Ça sera la détresse. Au contraire, lorsque Dieu nous sonde, c'est dans l'amour. Et on en voudra encore plus, parce que lorsqu'il nous sonde, c'est pour nous donner l'espoir et la puissance d'être changé. Pour David, ça goûte bon de se laisser sonder. C'est drôle, hein? Ça goûte bon. Ce n'est pas que Dieu trouve que du bon, ben non! Mais ça fait du bien lorsque Dieu met le doigt sur quelque chose et lorsqu'il entoure de son amour. Et lorsqu'il nous montre une façon d'être changé dans ce domaine-là. Sonde-moi, ô Dieu, n'arrête pas. Sonde mon cœur, cherche-moi. Examine-moi. Et si tu vois qu'il y a faute dans ma vie, bien, conduis-moi dans cette voie éternelle. Lorsque Dieu nous sonde, c'est jamais pour nous blesser, c'est jamais pour nous condamner, c'est jamais pour nous embarrasser, nous blâmer. Sonde-moi, ô Dieu. La deuxième chose que je remarque ici dans l'expérience et le partage de David, et il faut lire un peu entre les lignes, je suggère ici, mais David n'est pas en train de dire « Voici, je sais maintenant que Dieu me sonde et qu'il me connaît parce que j'étais à l'Oasis ce matin et j'ai entendu un message sur ça. » Non. David apprend par expérience que Dieu le sonde, que Dieu le connaît et que ça lui fait du bien, qu'il se voit transformé. David est en train d'apprendre par expérience. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de David qui fait en sorte qu'il apprend que Dieu sonde et le connaît. Et le change à l'intérieur à travers ce processus de sondage. Peut-être que David avait essayé de cacher quelque chose de majeur dans sa vie, quelque chose de mauvais, de cacher ça de Dieu. Peut-être qu'il avait essayé d'aborder une difficulté toute seule, de régler ça lui-même. Peut-être c'était ça. Peut-être qu'il était débordé de tristesse, de crainte, de cupidité, de haine. Oui, parce qu'il va parler de cette haine et il n'en parlera pas à peu près. Mais quoi que ce soit qui s'est passé dans sa vie, si vous connaissez l'histoire de David, on aurait pu aller à plusieurs événements de sa vie et dire que c'était peut-être là qu'il a écrit le psaume 139. Mais d'une manière ou d'une autre, il s'est tourné vers Dieu et c'est là qu'il a compris que Dieu le sonde, le connaît et que Dieu le transforme à travers ce processus-là. Il a découvert que Dieu était pour lui. il a découvert que Dieu était un lieu sécure, un refuge auquel il pouvait, dans lequel il pouvait se retrouver, que l'amour régnait à cet endroit-là, que c'était un endroit pour connaître Dieu, mais aussi pour se connaître. Que lorsque Dieu le sondait, David, il apprenait, il grandissait, il prenait de la maturité, il était de plus en plus là où Dieu le voulait. Il connaissait la victoire dans sa vie à mesure qu'il laissait Dieu le sonder. Je vous suggère que le psaume 139 est pour nous ce matin une invitation à donner à Dieu la permission de te sonder, de lui accorder la permission de te sonder. Et après t'avoir sondé, de faire rapport, évidemment. Parce que quand Dieu nous sonde, c'est toujours, toujours dans l'intention de nous faire rapport. Dieu, il ne nous sonde pas et il se fait rapport à lui. La seule raison qu'il me sonde, c'est qu'il veut me montrer ce qu'il a trouvé. Dans le christianisme, quand on parle d'un Dieu qui sonde, c'est un Dieu qui sonde pour nous révéler à nous ce qu'il trouve. Est-ce que Dieu a besoin de ma permission pour me sonder? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Dieu a besoin de ma permission pour me sonder? Je pense qu'on dirait, on a tendance à dire non, moi aussi, non. Hein? Il est Dieu et il sonde qui il veut, quand il veut. Il est le créateur de l'univers, il est le Seigneur et le maître de tout, même si ce n'est pas tout dedans, n'est-ce pas? Et lorsque lui veut illuminer quelque chose dans ma vie, il le fait quand il veut, chez la personne qu'il veut. Quand il veut me mettre un miroir plein devant ma face, il le fait. Il n'y a pas besoin de ma permission. Cependant, je vous suggère que oui, pour faire le travail qu'il veut faire, il a besoin de ma permission. Il a besoin de ta permission. Le genre de travail qu'il veut faire dans notre vie exige ma permission. David, pour vraiment arriver à vivre la transformation que Dieu lui proposait, devait coopérer avec Dieu, devait se soumettre à Dieu, devait dire oui à ce sondage. Si David était pour devenir le chef-d'œuvre, comme nous, appelé à devenir des chefs-d'œuvre de Dieu, je dois, moi, le laisser agir. Je pense que le psaume 139, c'est un psaume où Dieu et David semblent se positionner dans un respect total, où David exprime son immense respect envers Dieu, mais à quelque part, il y a là l'immense respect que Dieu a envers toi et moi. Dieu attend nos permissions pour faire le véritable travail en profondeur qu'il veut faire. La parole nous dit qu'il nous a créés à son image et qu'en étant de l'image de Dieu, Dieu, écoutez bien, nous admire. Dieu nous respecte. Dieu ne va jamais me contraindre. Seulement si je l'invite, va-t-il venir habiter dans mon cœur? Seulement si je lui donne la permission, va-t-il me sonder et me montrer ce qu'il trouve? Il va me remplir de lui-même quand je l'invite, mais il ne va jamais me posséder. C'est juste le diable qui possède. Dieu travaille avec nous. Dieu nous propose. Dieu nous demande, est-ce que je pourrais aller plus loin? Évidemment, Dieu n'aurait pas besoin. Mais il a décidé il y a longtemps qu'il attendait ma permission. Dieu sait aussi très, très bien que sans ma permission, ça finira pas. Je vais toujours résister. Je vais toujours repousser Dieu. Dieu a tendance d'attendre ma permission avant de vraiment se mettre au travail. Parce que là, il sait que ça va être du beau travail. Là, il sait que la porte lui est ouverte. Que la permission de venir chercher, on lui a accordée. Il préfère nous sonder avec notre permission. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Moi, je trouve que ce Dieu-là, moi, je veux le suivre. Moi, je lui fais confiance. Ce Dieu-là, je veux lui ouvrir ma vie pour qu'il me sonde et qu'il me montre les domaines de ma vie où je suis sur un mauvais sentier. Et ce seront toujours les domaines où je ne sais pas que je suis sur un mauvais sentier. Vous savez dans vos vies, je sais dans ma vie quand je suis sur certains mauvais sentiers. Je n'ai pas besoin d'une grande révélation, là. Je le sais tout de suite. Mais je pense qu'ici, le psalmiste parle d'une autre catégorie de sondage dans nos vies. Ces domaines où nous sommes inconscients que nous avons tort, que nous n'avons pas raison, que c'est ma femme qui a raison. Ce sont ces domaines de nos vies où nous pensons, nous sommes certains d'être sur le bon chemin. Et c'est seulement le travail de Dieu dans ma vie qui me sonde et qui me montre, non. Et combien de fois, moi, dans ma vie, j'ai dit, ça ne se peut pas. J'étais tellement convaincu d'être sur le bon chemin. Et je ne l'étais pas. Ce matin, on ne faisait que dire ça à Dieu. Permission accordée. Fais ton travail. Sonde-moi, oh Dieu. Tu me connais. Fais rapport. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. De lui accorder la permission. Mais je vous suggère qu'il y a plus que cela. Pas seulement de dire, mais Dieu, OK, vas-y, tu es Dieu, je t'accorde la permission. Mais on voit chez David une supplication. On voit qu'il va plus loin que juste accorder permission à Dieu. Il veut être sûr que Dieu ne l'oublie pas au réveil demain matin. Il veut être sûr que Dieu poursuive. Je vous suggère qu'il y a comme deux niveaux de vie de disciple. Il y a le disciple peut-être plus débutant qui suit Jésus qui dit, d'accord, fais ce que tu dois faire. Qui suis-je pour résister? Feu vert, voici Dieu. En attendant, moi je vais m'occuper de mes affaires. Mais on voit que David, il est rendu à un autre niveau dans sa relation avec Dieu. Il le supplie. Sonde-moi, ô Dieu. C'est plus qu'un constat que Dieu sonde, mais c'est une supplication. Montre-moi. Est-ce que je suis là où tu veux que je sois? Est-ce que mes attitudes envers cette personne-là, est-ce que c'est vraiment les attitudes que tu veux que j'ai? Ma disposition à moi, c'est de vouloir mener plutôt que de suivre, de vouloir choisir pour moi ce qu'il y a de meilleur, plutôt que de laisser Dieu ou des fois les frères et sœurs choisir ce qu'il y a de meilleur. Ma disposition, c'est de demander à Dieu pour que ma volonté soit faite. Je ne le dirai jamais comme ça, n'est-ce pas? Parce que là, je vais me rappeler du Notre Père. Mais j'ai d'autres manières de demander à Dieu. Ça prend des prières courageuses, comme celle de Jésus, ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Très brièvement, le Saint-Esprit, n'est-il pas lui le grand sondeur? N'est-il pas lui celui qui jette la lumière de Dieu sur mon caractère, sur mes priorités, sur mes passions? David avait compris que de suivre Dieu, ce n'était pas seulement d'entendre parler de lui et de croire en lui, mais c'était de se laisser changer par lui. Et c'est ce dernier élément-là, il me semble qu'on a oublié, que j'ai tendance à oublier, moi. Être chrétien, ce n'est pas de croire ce que la Bible dit, mais c'est de se laisser transformer par des supplications, se laisser transformer par ce que je crois dans ce que la Bible dit. Celui qui suit Jésus, il est en transformation. Être chrétien, c'est de se laisser changer profondément. Et David avait compris ça. Et le Saint-Esprit, c'est cet enseignant, c'est ce grand transformateur. C'est celui qui révèle tout de nous-mêmes, même qu'il sonde Dieu, nous dit Paul 1 Corinthiens. L'Esprit sonde même Dieu et nous le révèle. Le grand sondeur, c'est le Saint-Esprit. Voilà. J'aimerais qu'on aille rapidement. On est rendu où? Je n'ai pas regardé au diapo. On va continuer, chérie. Voilà. Encore. Ici. Voilà. Voilà. Entre le premier verset et les deux derniers, bon, il y a, c'est quoi, 19, 21 autres versets. Oui, c'est écrit, merci. Il y a du stock là-dedans, n'est-ce pas? C'est incroyable. La richesse du psaume 139. Si on demandait, je ne sais pas, à Benoît de mettre le psaume 139 en musique, écoute, je ne pense pas que ça gagnerait, c'est quoi, un prix platinum? Platinum, les grandes pièces musicales, n'est-ce pas? Parce qu'on dirait, non, il y a bien, c'est trop lourd, il y a trop de théologie, il y a trop de doctrine. C'est mieux juste, alléluia, alléluia, n'est-ce pas? Le psaume 139 en musique, bien, il y aurait du stock, n'est-ce pas? Mais les Israélites le chantaient. C'était l'histoire de leur foi, l'histoire de leur théologie. Mais rapidement, regardons. Je ne prendrai pas le temps de le relire, mais tu sais quand je m'assieds, tu sais où je suis, tu sais quand je me lève, quand je m'assois. Ces quelques versets nous rappellent que Dieu connaît tout. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu pénètes de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà tu la connais. Donc, on retrouve ici une doctrine essentielle de notre foi en tant que croyant. C'est que Dieu connaît tout et on va parler de l'omniscience de Dieu. Si vous prenez un cours avec Marc Debanet à l'ETHEC, il va sans doute vous parler de l'omniscience de Dieu qu'on retrouve dans le psaume 139, entre autres. On continue. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Si je me rends à l'autre bout du West Island, si même je traverse, n'est-ce pas, pour arriver, on arrive où? Je sais. À Vaudreuil. Même à Vaudreuil, tu vas me trouver, oh Dieu, n'est-ce pas? Donc, on va parler dans la doctrine chrétienne du fait qu'il est partout. Notre Dieu est omniprésent. Donc, il connaît tout, mais il est aussi partout. On continue. Mais il peut tout aussi. Il est omniprésent. Pas tant. On pourrait s'arrêter longtemps dans ces 21 versets pour parler de l'omniscience, de l'omniprésence et de l'omnipotence de notre Dieu. C'est de ce Dieu-là, c'est devant ce Dieu-là que David veut ouvrir son cœur et se laisser sonder. Vous savez, juste sur ces trois doctrines, sur ces attributs de Dieu, vous pourriez lire des milliers de pages, des milliers de pages écrites en théologie sur cela. Vous pourriez en faire une maîtrise, peut-être même un doctorat, pour essayer de mieux comprendre, mieux expliquer ces doctrines. Et vous pourriez vous-même écrire vos propres pages, pourquoi pas ajouter encore à ce qui a déjà été écrit. Ce sont des vérités essentielles à notre foi. Mais on ressent chez David quelque chose d'extrêmement personnel. Lorsqu'il parle de cette façon de Dieu, il n'a pas l'intention de donner des notes de cours pour Marc ou pour Sonny ou pour Martin Bellerose. Il est en train de nous partager le Dieu qu'il découvre, le Dieu qu'il connaît. Et c'est à cause de ce Dieu-là, de cette théologie-là, qu'il va dire, bien, Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi la voie de l'éternité. David commence son psaume avec cette exclamation, « Dieu, tu me sondes et tu me connais. » Dieu vient de faire ça dans ma vie, dit David. J'en suis témoin, j'en ai fait l'expérience. Je ne l'ai pas lu dans des livres, mais j'en ai fait l'expérience. On peut lire et dans les livres et faire l'expérience, n'est-ce pas? Évidemment. David dit, il est omniscient parce qu'il connaît tout à mon sujet. Il est omniprésent, j'en conclus, parce que je ne suis pas capable de le fuir, il est toujours là. David dit, je conclus qu'il est omnipotent parce que regardez ce qu'il a fait dans ma vie. Regardez comment il m'a formé depuis le début de ma conception jusqu'à ce jour. J'ai fait l'expérience de ce Dieu qui connaît tout, qui est partout et qui est omnipotent. Le christianisme n'est pas seulement au sujet de ce qu'on croit, mais il est aussi au sujet de ce que nous avons été transformés par ce qu'on croit. Et je pense que c'était là l'expérience de David. Le psaume 139, je vous suggère, c'est le témoignage. Il faudrait mettre minute témoignage début la semaine prochaine de David, n'est-ce pas? Son témoignage de comment Dieu est envers lui. Le psaume 139, c'est le témoignage de David, comment Dieu est envers lui. Je vous suggère que toutes les Écritures, toute la parole de Dieu, vise nous montrer comment Dieu veut être envers nous. C'est toujours personnel, c'est toujours intime. On peut apprendre beaucoup au sujet de Dieu. On peut prendre des cours à l'ETHEC. Venez, on a de la place. Il reste encore plusieurs places, n'est-ce pas? Mais vous allez rapidement découvrir, et je ne doute pas que vous l'avez en grande partie déjà découvert, que le plus que vous étudiez Dieu, le plus inévitablement vous allez vous étudier vous-même. Le plus qu'on se rapproche de Dieu, le plus qu'il a la carte blanche pour nous sonder. Le plus qu'on étudie Dieu et sa parole, le plus que c'est nous que nous allons découvrir. Une étude de soi où Dieu nous sonde, où Dieu nous apprend à notre sujet et où il nous transforme. Il y a ces quelques versets qui sont comme insérés dans le psaume 139. Si on avait le choix, peut-être qu'on dirait ces versets-là, bon, on les enlève complètement, n'est-ce pas? On va aller, je pense, à la prochaine... Oui, un bug, OK. Voilà. C'est pour ça que j'ai ma copie papier. Merci. Je pense que ça commence au verset 19. On lit ceci. Voilà, on va y arriver. « Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? » Donc, jusqu'à date, c'est-tu super comme ça? On va l'enseigner à nos enfants de 2, 3, 4 ans. Mais allez-vous leur enseigner aussi, ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi de manière criminelle, ô Dieu. Ils prennent ton nom pour mentir. Eux, tes... En tout cas, moi, j'ai hais tes ennemis. Puis s'il y en a un qui se présente devant moi, en tout cas... Je vais lui laisser savoir ce que toi tu penses d'eux, ô Dieu. Je les hais d'une parfaite haine. C'est difficile de le dire plus clairement. Hein? Je les hais d'une parfaite haine. Qu'est-ce que ça vient faire dans le psaume 139? Vous avez peut-être une idée aussi bonne que la mienne, parce que David n'est pas là pour nous l'expliquer. Mais je vous suggère que c'est là exactement où Dieu est en train de sonder David. Que c'est exactement là que David sera surpris par l'Éternel. C'est exactement dans cette haine-là qu'il déclare David, mais là, ça va pas. Je ne suis pas comme ça, David. Je n'ai pas besoin de ta haine. Ce n'est pas ce que je veux faire dans ta vie. Parce que c'est juste là que David va dire, « Oh, sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. » Je pense que David, pour la première fois, je vous suggère, va réaliser que Dieu est amour. Que Dieu n'est pas rempli de haine. David va vivre une tristesse, un désappointement parce qu'il réalise qu'il est sur un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu. Jusqu'à ce moment-là, David, lui, il fonce dans le tas. Il dit, moi, il n'y a personne qui haït les ennemis de Dieu comme moi. Et si c'est nécessaire, une tête par ici, une tête par là, je m'en occupe. Ce sont les ennemis de Dieu. Mais Dieu le sonde. Et Dieu lui montre qu'il est sur une mauvaise voie. Soyons clairs. David exprime ce qu'il a dans le cœur. Il exprime sa haine. Et devant les injustices causées par les ennemis, c'était juste ce que David disait. Il décrit bien ses ennemis. Et souvent, il faut dire la vérité sur nos ennemis. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas cacher la vérité. Il ne faut pas recouvrir la vérité par des belles paroles religieuses. Eugene Peterson, avec qui j'ai commencé tout à l'heure, ce théologien, dit de David, dans plusieurs de ses psaumes, il dit « David, dans ses psaumes-là, il sacre sans sacrer. » C'est-à-dire, il frappe dans le tas, n'est-ce pas? Il dit les choses telles qu'elles sont, mais sans sacrer. Sans utiliser du mauvais langage. L'honnêteté de dire les choses telles qu'elles sont, c'est nécessaire dans notre pèlerinage. Mais ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à être honnêtes devant les blessures et les injustices dans ce monde. Mais lui veut nous transformer pour qu'on soit comme Christ. Il veut que nous puissions aimer notre ennemi. Ce qu'on va découvrir clairement avec l'enseignement de Jésus plus tard, évidemment. Il me semble que c'est ça le discipulat. Je vais terminer avec ça. C'est de laisser Dieu nous sonder. D'apprendre à suivre Dieu pour devenir comme lui. Et la lumière que Dieu va utiliser dans votre vie, c'est toujours une lumière d'amour. Il va toujours, dans l'amour, nous montrer nos faiblesses et nous inviter à aimer toujours comme lui. Il nous sonde non pour nous rejeter, pour nous condamner, pour nous blâmer, mais pour nous changer à son image, toujours, au milieu de nos brisements et de nos supplications. Change-moi. « Ô Dieu, dit David, je ne savais pas que tu aimais tes ennemis, comme je viens de comprendre. » On peut s'imaginer que David n'a plus jamais été la même personne. On ne peut pas comprendre quelque chose de Dieu sans être transformé. Pas surprenant que David dit encore plus, « Continue, n'arrête pas. » Parce que lorsque Dieu nous montre si je suis sur un mauvais chemin, la transformation, elle est déjà commencée. Est-ce que je laisse Dieu me sonder? Est-ce que je lui donne permission? Encore plus, est-ce que j'oserais même le supplier de me sonder? Cette invitation à laisser Dieu me sonder, c'est de le laisser me sonder sans doute dans les domaines de ma vie où je ne suis pas encore conscient que ce n'est pas correct. Les domaines de ta vie où tu sais déjà que Dieu dit non, que Dieu dit ça m'attriste, ben, le sondage, Dieu t'a déjà sondé dans ces domaines-là. Mais on se met devant Dieu parce que Je suis un pauvre ignorant. Je pensais haïr tes ennemis, que ça te réjouissait. Prions. Père céleste, comme David, nous reconnaissons ce matin que tu nous connais. Tu nous sondes et tu nous connais. Mais on veut plus que ce constat. On t'invite à nous sonder en profondeur. On t'ouvre notre cœur. On t'ouvre notre vie afin que tu puisses y jeter ta lumière. Viens, Saint-Esprit, et révèle-nous ce qui, dans nos vies, n'honore pas le Père. Et change-nous. Conduis-nous sur la voie de l'éternité pour ta gloire. Seigneur, on est une gang de résistants. Nous résistons le chuchotement de ton Saint-Esprit et nous te demandons pardon. Nous confessons que nous avons beaucoup nos propres idées et que nous nous arrêtons très peu sur les tiennes. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Fais ton travail, change-moi, change-nous. Change cette église, l'oasis, afin que nous puissions être davantage à ton image et davantage utiles et à la bonne place et les bonnes personnes pour la mission à laquelle tu nous appelles, au nom de Jésus. Amen.